Eh bien, on va parler maintenant donc de cette histoire tout à fait stupéfiante, enfin stupéfiante parce qu'elle révèle et par les implications qu'elle a ou qu'elle est en train d'avoir, qui est l'Aquarius.
Oui, tout à fait. Si tu me permets, Yves, je voulais juste...
Alors, j'ai oublié de te dire que tu étais Filippo Fouri, que tu es membre de Migreurope.
Tout à fait.
Et que tu travailles sur ces questions de migratoires en Méditerranée.
Et sur la question de ville...
Tu es chercheur.
Tout à fait. Sur la question de ville et refuge, notamment. Donc, si tu me permets, c'est intéressant de passer du cercle du silence à la marche, etc. Il y a quelques semaines, je me baladais vers Pigalle. Et je me suis rendu compte qu'il y a un coin de rue où les rues de Calais et les rues de Ventimille s'y croisent. C'est assez drôle. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait que la marche passe par là parce que c'est quand même assez symbolique, ouais, disons ça. Et par rapport à la question de la solidarité, je me disais, c'est très important qu'on soit présent. Et même les situations de confrontation avec des représentants de Front National, etc., ça fait du bien d'être présent et de porter à travers Paris et à travers l'Italie des manifestations pour que les gens voient que la solidarité s'est faite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur qui se diffuse et qui va dans le sens des politiques, des restrictions et des contrôles, etc., qui après se manifeste dans ce qui est en train de se passer dans la Méditerranée sous Aquarius, mais j'ai l'impression que ça va détendre un peu sur tout le territoire italien notamment. Moi, ce que je crains, c'est que le délit de solidarité soit introduit par Salvini, donc le nouveau ministre des Affaires intérieures en Italie, comme il existe en France, et que la solidarité à tous les niveaux, donc pas que la solidarité en mer, soit attaquée.
Voilà. Et est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots donc, ce qui s'est passé avec ce qu'est-ce que ce bateau, l'Aquarius, hein, parce que c'est pas n'importe quoi, ce bateau.
L'Aquarius, c'est pas n'importe quoi, notamment parce que c'est un des seuls, qui a refusé... de se soumettre au code de conduite que Minniti, qui était le ministre des Affaires intérieures du gouvernement précédent, avait imposé aux ONG pour les contrôler et pour les dépotentier, disons ça, avec l'intention de légitimer l'intervention de Guadeloupe libyenne. MSF et SOS Méditerranée avaient résisté, n'avaient pas accepté de se soumettre à ces...
c'est Médecins Sans Frontières.
Oui, Médecins Sans Frontières, pardon. Et SOS... avait refusé de se soumettre à ces règlements. C'est-à-dire que sur le plan des ONG qui interviennent en mer, ils avaient déjà un rôle très important, hein, symboliquement très important. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, les mouvements ont repris, donc les voyages ont repris. Les interventions ont repris. On sait d'intervention de la garde côte libyenne qui a ramené des personnes en Libye. Et on sait aussi que bon, on est face à ces bateaux de MSF qui a récupéré. Je ne sais pas s'il s'agit du même naufrage ou de naufrages connectés. Là, j'ai pas des détails par rapport à ça, mais. Ce qui est important, c'est que sur le bateau, il y avait 629 personnes, dont des enfants, des femmes, 6 femmes enceintes, et que le nouveau Premier ministre a décidé que les ports italiens étaient fermés, donc ils n'allaient pas accueillir ce bateau, et du coup, leur imposer de stationner dans une zone intermédiaire entre, disons, Malte et l'Italie et la Sicile, une tension institutionnelle, diplomatique, avec Malte, c'est enchaîné. Après, il y a eu un stand-by, des situations très, très ambiguës, disons ça, parce que tout le monde s'en prend à Salvini. Bon, c'est clair que l'ordre de fermer les ports vient de Salvini, raison de sécurité. Mais il y a aussi le ministère des Infrastructures et des Transports, qui est celui qui gère les gardes-côtes, du coup, le MLCC, donc c'est-à-dire le centre de coordination des interventions en mer italien, et qui est. Le ministère est sous les ordres de quelqu'un du 5 étoiles. Hein, mm-hmm. Du 5 étoiles, qui est l'autre partie qui s'est alliée à la Ligue du Nord pour former un gouvernement qui s'est positionné, qui est arrivé à avoir une majorité et du coup à pouvoir s'installer en Italie. Après, vous savez qu'il y a eu quand même presque 2 mois de stand-by où on n'avait pas de solution politique. Je dis ça parce que même au sein de la scène politique italienne, c'est vrai que la Ligue du Nord a des positions très poussées par rapport à la criminalisation de la migration, aux attaques à la migration, genre la militarisation, etc. Mais il ne faut pas non plus négliger le rôle de ces autres, de ces partenaires au gouvernement qui auraient pu, à mon avis, intervenir, pousser un peu pour que la solution ne soit pas celle-là. Après plusieurs heures de stand-by, il y a eu énormément de mobilisation au niveau des villes portuaires italiennes. Messine, plutôt que Naples, ont déclaré, et suite à au moins une dizaine de ports italiens ont déclaré leur disponibilité à accueillir ces bateaux. Qui normalement est censé arriver à Catania, parce que la base de MSF est à Catania. Au même temps, des manifestations solidaires ouvrant le port sont parties dans les villes, dans beaucoup de villes italiennes, portuaires et non. Palerme notamment, il y a eu hier une manifestation très importante. Et entre-temps, il y a eu d'autres manifestations de solidarité et des disponibilités comme celle de la Corse qui a proposé effectivement d'accueillir ce bateau. Et l'Espagne, pas forcément. Moi, je dirais pas l'Espagne, hein, parce qu'après là aussi, on rentre dans un débat entre État et ville. Les villes de Barcelone et de Valencia, qui étaient déjà des villes qui s'étaient positionnées par rapport à l'accueil des migrants en 2015, ont relancé. Et du coup, il y a eu un accord pour que le bateau de MSF soit accompagné. C'est-à-dire que les conditions dans le bateau étaient assez difficiles parce qu'il n'y avait pas des ravitaillements pour les 3 jours de navigation. Mmh. Donc, 2 bateaux de la marine italienne sont intervenus, je crois une de garde-côte et une de la marine militaire, pour, partager les personnes sur les 3 bateaux. Et les 3 sont en train de se rendre à Valencia, qui est disponible à les accueillir. Actuellement, le bateau se retrouve encore près des côtes siciliennes, par contre, parce que la mer est assez difficile, donc ils ont du mal à avancer.
Voilà, donc ce que disaient les gens de l'Aquarius, c'est qu'il y avait pour 3-4 jours de mer, mais peut-être plus à cause des conditions météo qui sont très mauvaises.
Exactement.
Et donc ça amène à des réactions d'une part. D'un côté, on voit des réactions diplomatiques assez stupéfiantes, avec notamment les réactions d'un certain président de la France, là, qui s'appelle Macron, c'est ça, qui reproche à l'Italie, enfin je ne sais quoi. L'Italie lui dit, mais vous n'avez qu'à pas détourner les yeux et le regard, ce qui est vrai, quand vous accueillez les migrants avec l'armée aux frontières.
Tout à fait.
Nous, on ne les laisse pas passer, parce que sinon, ils reviennent chez nous. C'est grosso modo le discours qui est tenu.
Oui, on a ça en France. Il y a eu énormément de polémiques aussi sur l'Espagne, en disant mais l'Espagne, ce qu'elle fait à Ceuta et Melilla, c'est honteux. Et là, elle profite de l'occasion pour
donner une
désert, voilà. Donc il y a des débats à ce niveau-là. Mais moi, je crois que c'est intéressant de rentrer dans le genre de complexifier un peu la discussion et de mettre le plan étatique et les plans locaux des municipalités en dialogue. Parce qu'effectivement, bon, le gouvernement espagnol a changé, donc on ne peut imaginer qu'il y ait des petites évolutions, mais c'est les villes, et moi je relie ces décisions de Valencia à ce qui s'était passé en 2015. Donc,
voilà, et donc en 2015, il y avait déjà un plan pour que Barcelone accueille, avec des budgets qui avaient été votés, accueille des gens, et c'est le gouvernement de Rajoy qui a empêché
qui avait posé le veto, tout à fait. Et c'est intéressant, parce que pour revenir à la France et à cette dialogue entre ville et État, il faut se rappeler que cet accord avait été, porté par la maire de Barcelone, Ada Colau, qui avait essayé de créer un réseau de villes-refuges et des îles de transit. Donc il y avait Lampedusa, Lesbos, Valencia, Barcelone, et même Paris avait été interpellé au moment où Anne Hidalgo avait parlé de la création de son centre d'accueil, de premier accueil, etc., qui devait faire entrer la ville de Paris aussi dans cette constellation de villes d'accueil et de villes-refuges. Le problème, c'est que par la suite, la préfecture a pris un peu le contrôle de la situation et le projet est un peu... disons, la destination du centre a légèrement changé, disons ça.
Complètement dégénéré, oui.
Ouais. Et tu me parlais de choses tout à fait étonnantes aussi qui se passent avec l'Autriche, avec l'Allemagne.
Là, c'est une info que je viens de recevoir. France TV Info a donné la nouvelle que les ministres, je crois, des Affaires intérieures autrichiens a dit que l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne seraient en train de créer un axe contre la migration irrégulière. Or, moi, je voudrais vérifier, parce que là, c'est une nouvelle que je viens d'avoir vraiment, là. Mais le mot « axe » en soi, Italie, Allemagne et Autriche, n'est pas des plus... Ça nous fait un peu froid.
Voilà. Mais c'est pas du tout anodin. Soit c'est une grosse bourde de l'avoir choisi, soit c'est une affirmation... une grosse affirmation, un gros point d'exclamation.
Moi, je pense que la guerre aux migrants, dans tout, après on peut mettre dedans tout ce qu'on veut dans la définition de migrants, les exilés. Moi je parle de migrants parce que je trouve que là on est en train de vraiment parler du mouvement, donc je trouve que pour ce qu'il s'agit de la Méditerranée, migrants ça parle. Mais cette guerre aux migrants a été déclenchée depuis longtemps et on le sait et c'est pour ça qu'il y a une polémique, si vous voulez, entre les pays européens et qu'on se renvoie la balle sur la Malte et l'Italie. Les deux n'ont pas respecté des accords internationaux par rapport au droit maritime qui les obligent à recevoir des bateaux en difficulté. De l'autre côté, vous avez la France qui se permet de dire que ce qui se passe est honteux, alors qu'on sait très bien ce qui se passe à la frontière italo-française, avec des actions qui dépassent le cadre légal, mais largement. Il y a un garçon, je ne sais pas si vous avez lu, mais ça n'a rien à voir avec la Méditerranée, mais il y a un garçon italien qui avait sa carte d'identité, qui était en train de se rendre en Espagne pour travailler. Il a été arrêté à Nice et on lui a empêché de passer. Le garçon est italien, sauf qu'il est il est adopté et d'origine sud-américaine. Donc
il était louche,
et on lui a pas cru et parce que il avait besoin de passeport et il a été refusé à la frontière. Donc on arrive à du paroxysme, genre à des situations qui sont ridicules si elles étaient pas dramatiques. Quoi.
Oui, des situations ou autre chose dont on a parlé ici. Donc là, ce jeune Italien qui est bloqué à la frontière. Je n'en avais pas entendu parler, mais ça, on avait parlé de situations ridicules. Un jeune Nigérian qui prend le train, qui s'arrête en Italie après être passé par la France. La police française va le courser en Italie, l'arrête dans le...
Exactement.
Et ça fait un pataquès diplomatique. Et là, pourtant, c'est quelqu'un qui était à la France, qui rentrait en Italie.
Ahurissant.
C'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une... C'est une situation très compliquée où les responsabilités sont largement à partager au niveau européen, au niveau national, etc. C'est clair que ce qui s'est passé à l'Italie, c'est grave, mais c'est grave à la fois parce que ça ouvre un précédent juridique qui est très, très dangereux. Mmh. Et aussi parce que, si vous voulez, avant, tout ce qui se faisait, les accords avec la Libye, etc., même par le gouvernement Minniti, était un peu, fait, je ne dis pas en cachette, mais il y avait quand même un jeu diplomatique et un jeu politique derrière. Alors que là, on a vraiment dédouané un discours ouvertement hostile, explicitement raciste, et décriminalisation des ONG qui est explicite, quoi. On est passé du niveau implicite, si vous voulez, à un niveau explicite qui est assez grave, je trouve.
Ouais. Et donc là, tu as, je crois que c'est une information d'ailleurs que je tiens de toi. Hein. Donc c'était lundi 11, après que l'Aquarius ait été empêché de débarquer. Il y a des bateaux Michela italiens qui avaient fait des opérations de sauvetage qui ont débarqué 900 personnes.
Tout à fait. Ben, le débarquement a eu lieu aujourd'hui. Les bateaux, c'est un bateau de garde-côte italienne qui s'appelle Diciotti, qui est basé à Catania et qui a ramené environ 930 personnes, mais je peux me tromper, à Catania, selon la procédure normale, disons, du débarquement et du secours en mer. Oui, du secours en mer et de la mise en place du hotspot mobile de Catania et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas qu'on les a accueillis à bras ouverts. Oui, disons que le jour où Aquarius
aurait pu accoster, n'a pas.
Exactement.
Mais est-ce que je comprends bien là, si en entendant ça, je me dis ça veut dire que c'est spécifiquement l'Aquarius qui était dans le collimateur. C'est ça qu'il faut comprendre.
Mais je pense que c'est un peu ça le message. C'est-à-dire que tant que la gestion est militaire et ça passe par...
on accepte. Mais
voilà, on accepte. On accepte tout un. Ouais. Voilà. Alors que bloquer l'ONG signifie... délégitimer son rôle et à la limite les accuser. Jean Salvini, il y a quelques jours, avait effectivement été revenu sur cette formule, pas la même formule, parce que l'autre Di Maio de 5 étoiles avait parlé des taxis de la mer. Là, Salvini a parlé est revenu sur la question des complices, etc., comme si les ONG étaient là pour
aider les réseaux et profiter de la situation.
Exactement. Alors que c'est intéressant, parce que là, c'est un petit détail, mais en France, c'est intéressant parce qu'en France, on en a parlé au subjonctif,
ouais,
comme possibilité, alors qu'en Italie, on a utilisé les mots d'indicatif. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Cour... des sécurités, des conseils de sécurité des Nations Unies,
ouais,
suite à une enquête menée par un parquet hollandais, est intervenu, donc a mis en place des mesures contre six personnes censées être de smuggles, donc des trafiquants, quatre Libyens et deux Érythréens, si je ne me trompe pas. Auxquels on a bloqué les comptes bancaires, etc. Donc on les a un peu... voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un de ces quatre Libyens semblerait être un des commandants de garde-côte libyenne. C'est-à-dire, probablement, là, je ne suis pas avancé sur ce dossier, mais c'est les sujets qui ont stipulé des accords avec les gouvernements italiens pour contrôler, patrouiller, etc. Donc, vous rappelez des vidéos des gardes-côtes qui frappaient les personnes, vous rappelez des menaces de mort, etc. Mais là, on a davantage quelques indices en plus, disons ça, qui nous diraient que c'est pas vraiment les ONG qui ont des relations avec les trafiquants.
Oui, bah c'est des choses enfin, qu'on connaît surtout sur le ton de la rumeur et bon, c'est documenté, c'est pas encore prouvé, mais
moi je mentionne cette enquête parce que les articles sont sortis, donc je trouve que c'est important de faire part les gens de ces informations. Après, c'est approuvé, c'est à vérifier, etc. Mais disons que la narration étatique qui met de mauvais côté les ONG et la solidarité en mer, alors que les actions étatiques sembleraient être linéaires et claires, bon, voilà. On peut en douter un petit peu, voilà.
On peut en douter, c'est d'autant plus que, quand même, je veux dire que c'est le marché des passeurs, c'est la prohibition, c'est l'interdiction de passer les frontières qui crée ce marché des passeurs. Je veux dire, n'importe qui va pas risquer sa peau en dépensant entre 2 500 et 7 000, voire 10 000, voire 15 000 euros pour aller de Tunisie en Italie, alors que n'importe qui peut le faire pour moins de 70 euros en prenant un ferry, si on a un passeport, voyez un visa, si on a besoin du visa.
Ça, c'est un peu le point de départ de tous les, voilà, de toutes les positions qu'on défend, quoi. La liberté des mouvements, liberté de circulation, etc.
Liberté de mouvement, liberté de circulation, et qui est normalement, qui devrait être garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée en 1948. Après les grands dégâts, parce que c'est quelques articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut trouver que ça va pas assez loin, ou que, mais n'empêche que c'est un accord
à minima.
Pardon ?
C'est la base.
C'est un accord à minima pour éviter que la grande déflagration des années, enfin, du milieu des années, du milieu du XXe siècle recommence.
Bah, tout à fait, mais c'est pour ça que le mention de l'axe comme accord entre ces trois pays, c'est assez inquiétant.
Voilà, et donc l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que quiconque peut quitter et revenir dans son pays. Et il y a une chose, alors il ne nous reste plus énormément de temps malheureusement maintenant, donc on voit qu'il y a d'une part, une espèce de manque de solidarité ou un truc bizarre qui se passe entre les États européens, qui ont tendance à se défiler et à durcir des positions. Et en même temps, partout où il y a on voit des réactions de solidarité extraordinaires qui sont en train de se faire. On a vu ça à Lampedusa, on a vu ça donc dans plusieurs points en Calabre, on voit ça en Sicile, avec notamment le maire de Palerme qui a fait un superbe texte où il demande l'abrogation des titres de séjour.
Tout à fait.
On voit ça aussi dans le nord de la France, notamment à Grande-Synthe, donc à côté de Calais, dans la banlieue de Dunkerque, et même à Calais, dans toutes les petites villes qui abritaient les jungles, voire des jungles municipales, où c'est le préfet qui a tout cassé, mais... On parlait de Noron de Fonte, on parlait de tout à l'heure, qui avait sa jungle qui était protégée par la ville. Et est-ce que c'est, et on voit aussi en même temps, donc avec ça, qu'il y a des d'une part des villes, soit des réseaux des villes accueillantes. Il y avait l'association, donc jusqu'en 2013 ou 2014, l'association des maires. Accueillant dans le nord de la France, il y avait plus de 200 mairies qui étaient là, qui avaient été lancées par Marc Bounois, qui était le maire de Noron de Fonte.
En Italie, par exemple, il y a un réseau qui s'appelle RecoSol, donc le réseau des villes solidaires.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une multiplication, il y a une configuration un peu à constellation de villes et des petites communautés. Parce que moi, je reviens un peu sur l'histoire de Riace, en Calabria, qui est un des premiers cas d'accueil et d'hospitalité appliqué, disons ça, et qui est... toujours sous attaque parce qu'on met en question sa modalité de gestion, etc. Mais c'est un exemple d'hospitalité villageoise, disons ça. C'est-à-dire qu'il y a, à l'échelle, elles sont différentes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations qui se font davantage et que du coup, il ne s'agit plus de mettre en place des solutions locales. Mais il s'agit de raisonner et de travailler un réseau pour démultiplier aussi à la fois les témoignages des luttes, les témoignages de solidarité et les soutiens réciproques.
Ouais. À propos de Riace, il y a un très joli film qui a été fait d'ailleurs.
Exactement, Un paese di Calabria, c'est un très beau film. Mais il y a aussi un film de Wim Wenders qui parle de Riace comme de le miracle de ce nouveau siècle. Genre,
De Wim Wenders, c'est quoi le titre ?
Récent. Ouais, il y a quelques années, mais c'est genre il y a Riace est un lieu exemplaire, très, disons ça, exemplaire. Mais en pensant aux réseaux qui se font, ben là il y a les états généraux de la migration qui sont mis en place, qui commencent à agir. Bon, il y a cette marche qui témoigne à travers la France. En Italie, il y a le forum pour changer l'ordre des choses qui a été lancé suite à la sortie du film de Andrea Segre, l'ordre des choses, qui raconte notamment la politique italienne en Libye. Et il y a des relations, des liaisons se font. Et j'ai l'impression que c'est un peu la voie qu'on a intérêt à suivre pour ne pas être seul dans notre, dans nos luttes et dans nos engagements locaux, mais que tout soit mis en réseau. Parce qu'effectivement, en plus, ça fait du feedback. Donc, c'est-à-dire que si on voit qu'ailleurs, on fait autre chose, on fait aussi, ça donne envie et ça donne du courage. Quoi. J'ai l'impression qu'on a
besoin... Et des idées nouvelles.
Oui, des idées, mais on a besoin du courage. On a besoin d'essayer des choses.
Oui, c'est tout à fait ce qui se passe aussi... Donc dans la montagne,
Briançon ou dans la Roya,
à Briançon, donc parmi les villes solidaires ou les villes accueillantes, Briançon et l'agglomération, la communauté de communes là du Briançonnais est complètement solidaire. On est hors la loi, et puis c'est normal, on se pose pas la question si on est dans la loi de sauver ou pas, on sauve et puis c'est tout. Grenoble est sur les mêmes positions. On voit donc à propos de la Corse, hein, parce que quand même, avec nos grands donneurs de leçons, bah, c'était quand même beaucoup plus simple d'aller en Corse quand on est au large de la Sicile que d'aller en Espagne. Hein. Dans un côté, il y a quelques centaines de kilomètres, dans l'autre côté, il y a 1500 kilomètres.
J'ai pas vu la carte. Disons que les deux solutions étaient un peu difficiles en ayant la Sicile à côté. Hein, mais... Oui.
Hein, mais bon, le président du conseil Corse, hein, exécutif, enfin du conseil régional de Corse, Gilles Simeoni, dit accueillir l'Aquarius en Corse, la compétence, je la prends. Donc on a quand même des choses qui sont aussi bien au niveau des villes que des actions citoyennes.
Il y a le premier qui a donné disponibilité a été le maire de Naples, mm-hmm. De Magistris. Et c'est intéressant parce que le maire de Naples, depuis un moment, porte un peu ses rôles qu'il a pris, qu'on lui a attribués, de ville rebelle aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... la solidarité des villes et des municipalités devient une forme de rébellion vis-à-vis d'un pouvoir étatique qui s'acharne contre les migrants, etc. Donc c'est un niveau de tension politique, je pense que ça va... Et ça va être un peu le cœur de la dimension, de l'évolution politique aussi au niveau européen, je crois.
Voilà, bah écoute, soit c'est une conclusion, soit tu as encore 30 secondes pour conclure, mais ça me paraît être une très bonne conclusion et que. Bon, on a des villes qui désobéissent et des citoyens qui désobéissent ou qui obéissent à d'autres valeurs.
Bon, 30 secondes.
Vas-y.
Non, mais on s'était vu pour la charte de Lampedusa et récemment, je ressorti un des articles de la charte de Lampedusa qui disait la charte déclare la liberté et les droits de désobéir à des ordres injustes.
Voilà. Ben voilà, dans le même, j'ai encore 20 secondes.
20 secondes.
Je voudrais citer un communiqué du MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, qui a écrit, là, il n'y a pas longtemps, si la loi asile-immigration passe en France, on sera condamné à la désobéissance civile. En gros, la formulation n'est peut-être pas exactement celle-là, mais en fait, c'était le sens. Ouais, moi, je pense
voilà, donc.
Sur la même ligne.
Comment
maintenant, on va passer à notre agenda. Hein.